Et à 8h23, il est déjà temps de retrouver Sébastien Duhamel pour la revue de la presse. Bonjour Sébastien.
Bonjour Juliette.
Revue de la presse hebdomadaire, c'est dimanche. Et le petit nouveau qui fait grand bruit.
Hebdo, c'est son nom. Hebdo, le journal qui sort du lot, lance le Canard Enchaîné dans un édito assassin. Le journal satirique se moque ici de l'affaire Nicolas Hulot, sortie par l'Hebdo dans son 5e numéro en date du 9 février. Les fondateurs du nouveau magazine avaient prévenu, libre de toute attache publicitaire, ils allaient donner une leçon de journalisme. La démonstration a été éclair, peut-on lire. Le Canard Enchaîné dénonce plus précisément le manque de sérieux de ses confrères dont le scoop échapperait visiblement à quelques standards du journalisme, affirme-t-il. La première accusation, celle de harcèlement sexuel à la Fondation Hulot il y a quelques années, ne tient pas la route. La harcelée, entre guillemets, a tout démenti, écrit le Canard. La seconde accusation, celle de viol, ne serait pas plus solide, reposant sur une seule plainte qu'Hebdo n'a même pas eue entre les mains, tacle l'édito. Et il poursuit, une plainte qui plus est classée sans suite, déposée alors qu'il y avait prescription, toutes les conditions étant réunies pour que personne ne sache jamais ce qui s'est passé, conclut le Canard avant de mettre en garde. Tremblé, kiosquier, l'ouragan Hebdo revient en 6e semaine.
Alors je ne sais pas si les kiosquiers ont tremblé, mais ce qui est sûr, c'est qu'Hebdo est bien revenu.
Et il est revenu également sur cette affaire pour se défendre. Nous avions une information factuelle, la plainte pour viol d'une femme qui se débat avec cette histoire depuis 20 ans, explique Hebdo. Et il continue, nous avons entendu le témoignage de la personne concernée et de ses proches. La femme en question étant Pascale Mitterrand, petite-fille du défunt président, et rappelant au passage que la procureure de Saint-Malo leur donnera raison sur l'existence de cette plainte, Hebdo se défend enfin. L'info vient heurter l'image publique, aussi dérangeante soit-elle, il nous semblait nécessaire de la publier. Dommage toutefois que le magazine ne prenne pas la peine de revenir sur la divulgation de la première accusation démentie. Dommage en tout cas que l'image du nouveau magazine soit si vite entachée, car s'il s'agit du dernier né de la presse, ses fondateurs et artisans, eux, ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils font généralement bien leur travail, comme cette semaine avec le reportage sur Aulnay-sous-Bois, en détresse, et la rencontre avec la famille du jeune Théo, qui subit encore aujourd'hui les conséquences médicales d'une interpellation bien trop musclée, voilà un an.
Mais le mal est donc fait, l'image du magazine est tout de même ternie, Sébastien, et la polémique déclenchée.
Faut-il tout balancer, s'interroge l'Obs en montrant Nicolas Hulot et d'autres personnalités impliquées dans différents dossier de nature complètement différente. Le Point, lui, y va de son édito, je cite, « Assoiffé de sang, la bête médiatique et la ville populace ont battu le haut du pavé ces derniers temps à la recherche de nouvelles personnalités accusées de viol. » Le Point qui conclut, « Nous voilà maintenant dans l'ère de la suspicion et considéré comme une perte de temps, la présomption d'innocence n'a plus lieu d'être. » À noter, Juliette, que Marianne, pour sa part, n'est guère touchée par tout ce tapage. Le magazine préfère voler au secours de la fonction publique. Fainéant, trop nombreux, pas rentable, s'interroge le magazine en minuscule. Non, répond-il en majuscule, nos fonctionnaires sont formidables. S'ensuit un dossier de 10 pages pour tenter de le démontrer.
La France ne le savait pas, car le poste n'existe pas dans l'Hexagone, mais elle a un vice-président.
Et c'est Le Point qui nous le présente. Le vice-président, c'est le titre affiché en une au-dessus de la photo de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, vu par l'hebdomadaire comme l'homme clé du macronisme. Pour l'anecdote, on se rappellera qu'en mai 2015, c'était l'Obs qui nommait une vice-présidente en la personne de Ségolène Royal. Alors comme elle, peut-être un jour, Jean-Michel Blanquer aura-t-il la chance de devenir envoyé spécial pour la mise en œuvre de l'Alliance solaire internationale ? Ça, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que cette semaine, il a donc accordé un entretien fleuve au Point. Mais avant de le livrer, l'hebdomadaire ne manque pas de dresser un portrait dithyrambique du locataire de la rue de Grenelle. Tout y est, du passage à l'émission politique sur France 2 cette semaine, au conseiller anonyme d'Emmanuel Macron, affirmant, je cite, que Jean-Michel n'est pas qu'un technicien de l'éducation, c'est aussi quelqu'un qui la pense. Le Point cite aussi les prédécesseurs, Jean-Pierre Chevènement, qui analyse, c'est étonnant, tiens, positivement l'aspect conservateur sous lequel on présente souvent Jean-Michel Blanquer. François Bayrou également, qui l'assure sur un ton tout macronien. Jean-Michel Blanquer est un homme de bon sens. Or, le bon sens n'est ni de droite, ni de gauche. Et l'entretien qui suit, naturellement, ne les fait pas mentir. Non, Jean-Michel Blanquer l'affirme, modeste, il n'a pas d'ambition politique, seulement celle de changer notre système éducatif. Il revient sur la réforme du bac, qu'il entreprend, en se défendant bien d'être conservateur, justement. Je cherche à garder du passé ce qui marche et à changer ce qui ne marche pas, déclare-t-il avant de poursuivre. Peu importe que ce soit un héritage de gauche ou de droite. Un homme de bon sens, vous a-t-on dit, Juliette. Mais non, aucun élément de langage du répertoire présidentiel, en revanche.
Le Figaro Magazine, pour sa part, a visité la Russie cette semaine.
Oui, et nous, lecteurs, sommes privilégiés parce qu'il nous emmène dans les secrets du Kremlin pour découvrir comment Poutine gouverne. Du moins, C'est ce qu'annonce la Une, parce que non, il ne faut pas s'attendre en réalité à de grands secrets d'État. Hein. Et puis si secret il doit y avoir, ce n'est plus vraiment au Kremlin d'ailleurs, car le magazine nous explique en fait que le président russe favori pour sa réélection en mars prochain gouverne de moins en moins depuis la célèbre forteresse de Moscou. Il la délaisse au profit de sa luxueuse résidence, Botcharov-Routchey, située à Sotchi, 40 hectares sous le soleil qui baigne la mer Noire. Le Figaro magazine s'amuse, imaginez-vous, c'est comme si la France devait s'habituer à ce qu'Emmanuel Macron gouverne depuis le fort de Brégançon. Sauf que pour la résidence de Sotchi, attention, les choses n'ont pas été faites à moitié, comme le montre l'article. Une salle de sport, deux piscines, un spa, un pavillon de plage. Rien que ça, Juliette.
Et Sébastien, une fois n'est pas coutume cette semaine, vous avez également lu le Figaro magazine télé.
Oui. Quand je l'ai sorti de la boîte aux lettres et que j'ai vu sa couverture, j'ai pas pu résister, je dois l'admettre. La France de Pernaut, affiche-t-elle. On y voit le célèbre présentateur télé, bras croisés, tout sourire et la promesse d'un entretien avec l'homme qui prend chaque jour le pouls du pays. Alors j'ai lu et on apprend que le 22 février, sur TF1, Jean-Pierre Pernaut fêtera ses 30 ans à la tête du journal télévisé. 36 ans de JT, précisera plus loin le principal intéressé. Et aujourd'hui encore, il est le patron des 13 heures en rassemblant quotidiennement quelques 5 600 000 téléspectateurs, rappelle le magazine. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette France des sabots et des forgerons, comme le décrivait récemment la présidente du groupe de travail de cohésion sociale au CSA, eh bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc, une telle longévité, Juliette, moi je dis, ça méritait bien un coup de chapeau.